Audiolib présente. Le réseau de John Grisham. Traduit de l'anglais par Dominique Defer. Lu par Slimane Yefsa. Chapitre 1. Au 47e étage d'une tour de verre à la pointe sud de Manhattan, Mitch McDear était seul dans son bureau. Il contemplait Battery Park et les eaux de la baie encombrées de bateaux. Il y en avait de toute taille et de toute forme. De gros porte-conteneurs attendaient de pouvoir décharger. Le ferry de Staten Island s'approchait lentement d'Ellis Island. Un bateau de croisière bondé de touristes se dirigeait vers la pleine mer. Un méga-yacht faisait une entrée remarquée en ville et un skipper téméraire sur son petit catamaran de 5 mètres sinuait entre tous ses navires. 300 mètres au-dessus, 5 hélicoptères bourdonnaient comme de gros frelons. Au loin, des camions sur le pont Verrazzano étaient coincés dans les bouchons, pare-choc contre pare-choc. La statue de la Liberté regardait toute cette agitation de son magnifique perchoir. La vue était spectaculaire. Et Mitch essayait d'en profiter au moins une fois par jour. Parfois, il y parvenait. Mais le plus souvent, le temps lui manquait. Il travaillait à l'heure. Sa vie était réglée comme un métronome, à l'instar de celle de ses centaines de collègues dans ce gratte-ciel. Le cabinet Scully & Pershing employait plus de 2000 personnes aux quatre coins du globe et se vantait d'être le plus grand cabinet d'avocats du monde. Les associés à New York, comme Mitch, avait droit à de grands bureaux au cœur du Financial District. La firme, aujourd'hui centenaire, incarnait le prestige, le pouvoir et l'argent. Il consulta sa montre. Adieu la contemplation. Deux avocats toquèrent à sa porte. C'était l'heure d'une autre réunion. Ils s'installèrent autour de la table basse et une secrétaire leur proposa du café. Ils déclinèrent l'offre et elle s'en alla. Leur client était un armateur finlandais qui avait des problèmes en Afrique du Sud. Les autorités locales avaient bloqué un cargo en provenance de Taïwan chargé de matériel électronique. Vide, le navire valait 100 millions de dollars. Avec sa cargaison, sa valeur doublait et les Sud-Africains voulaient réviser à la hausse les droits de port. Mitch était descendu deux fois au Cap cette année et n'avait aucune envie d'y retourner. Après une demi-heure d'échange, il renvoya ses deux collaborateurs avec une liste d'instructions, puis accueillit un nouveau binôme. À 17h précise, il quitta son bureau, fit un dernier point avec sa secrétaire qui s'apprêtait aussi à partir, et délaissa les ascenseurs au profit des escaliers. Dans la mesure du possible, il préférait éviter les cabines et les sempiternels bavardages des avocats. Il avait beaucoup d'amis chez S&P, très peu d'ennemis, et sans cesse de jeunes recrues et des associés nouvellement promus rejoignaient les rangs. Il était censé tous les connaître. Or, il avait rarement le loisir, ou l'envie, d'étudier l'organigramme de la firme pour mémoriser leurs noms. Chaque fois qu'il prenait l'escalier, ses cuisses et son souffle lui rappelaient qu'il n'avait plus 20 ans et qu'il ne pouvait plus jouer au football ou au basket, du moins plus pendant des heures. Il avait 41 ans, était encore en forme, car il surveillait son alimentation et sautait au moins 3 déjeuners par semaine pour aller à la salle de gym de l'entreprise, un autre privilège réservé aux associés chez Scully. Il sortit des escaliers au 41e étage et se rendit dans le bureau de Willie Backstrom, un autre associé qui, lui, n'avait plus à justifier ses heures de travail. Willie supervisait le service des aides juridiques gratuites et bien qu'il consignât son temps consacré à chaque client, il n'envoyait jamais la facture, parce que personne ne pouvait payer. Les avocats chez Scully gagnaient beaucoup d'argent, en particulier les associés, et le cabinet était connu pour ses engagements bénévoles. S&P gérait des dossiers difficiles partout sur la planète, et tous les avocats étaient tenus de consacrer 10% de leur temps à diverses causes caritatives, toutes validées auparavant par Willie. En interne, les avis étaient mitigés. La moitié des avocats aimait cet altruisme qui les